Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end à tous. Émission préparée par Manuel Mariani. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe, comment ça va?
Ça va bien. Éleveur de moutons ce matin, vous aviez laissé échapper votre animal préféré, on l'a retrouvé ce matin, vous avez vu?
Absolument, on l'a retrouvé en Australie avec 35 kilos de laine sur le dos, Philippe.
Il est beau, vous avez mis la photo sur le site?
Non, je ne l'ai pas mis.
Il est magnifique.
Non, je vous la mettrai, effectivement, on va faire une petite news.
Ouais, il a un petit côté Maître Boily au niveau de la coiffure.
Ah oui, oui, exactement, j'ai tout de suite pensé à Maître Boily quand j'ai vu cet agneau avec 35 kilos de laine sur le... Et il y avait de quoi habiller, il y avait de quoi ouvrir un H&M ou un Zara. Hein, avec
au moins, ouais. Ou un fil d'art, comme on disait à l'époque.
C'est ça, voilà, un fil d'art, absolument.
Bien, tout est beau dans l'agneau aujourd'hui,
même, oui,
parce que c'est la saison.
Tout est beau dans l'agneau, oui, parce qu'il y a une saison pour l'agneau, Philippe. Et là, on est au début de la meilleure saison pour l'agneau, c'est-à-dire le printemps. Alors, avec le réchauffement climatique, ça commence un petit peu mi-février, fin février, mais normalement, c'est mars-avril. Mmh. C'est la meilleure saison de l'agneau. Pourquoi ? Parce que déjà, on y commence à y avoir des pâturages. Hein, l'herbe pousse, elle est bien verte. Elle a pris pendant que les sols étaient gelés pendant l'hiver, les sous-sols ont pris des forces et du coup, ça, la nature reprend ses droits et les agneaux paissent une herbe. Alors on va voir après que tous les agneaux ne paissent pas, hein, parce qu'il y a l'agneau de lait aussi qui n'a fait que téter maman. Hein.
Il ne paisse pas le.
Oui, mais vous connaissez pas le verbe paître, Philippe.
Ah si, tout à fait.
C'est pas le verbe PC.
Non, mais j'ai bien compris. Je l'utilise moins que vous, mais je le connaissais. Mais
excusez-moi de parler français, Philippe, je suis navré. ces agneaux qui ont brouté cette bonne première herbe, hein, ont une chair très parfumée, très très tendre, très moelleuse, et c'est pour ça qu'on est vraiment dans le top de la saison, là, mars-avril, on est bien sur l'agneau.
Bien, notre invité aujourd'hui, Manu.
Alors, notre invité, c'est Slim Loomy, une moitié des jumeaux.
Hein, ouais, coucou tout le monde.
Voilà, plaisir. Une moitié des jumeaux bouchés au Lila, rue de Paris. Hein,
exactement, au Lila.
Boucherie halal, bio. Enfin, on n'a plus le droit de dire bio, mais moi je dis bio quand même, c'est pas grave.
Nous on dit issu d'un élevage naturel.
Voilà, bon, c'est pas grave.
Ça revient au même.
C'est à moi qu'on fera le procès, mais j'assume. Maître Serran me défendra gratuitement. Et puis.
C'est mal connaître Maître Serran.
Alors, et boucherie effectivement qu'on connaît bien, hein, déjà sur Beurre FM, et puis qui est très connue maintenant avec tous les articles que vous avez eus, ouais. aussi bien dans la presse halal entre guillemets que dans la presse bobo. Vous êtes un peu les stars de la boucherie de l'Est parisien.
Ça fait plaisir d'entendre de ta part.
Bon, alors est-ce qu'on peut parler de saison là? Est-ce que c'est vraiment la saison de l'agneau primeur?
Là, en ce moment, il fait plutôt beau.
Ouais.
Donc, du coup, puis il y a à peu près un mois, il a beaucoup plu. Et quand il pleut pas mal, l'air va plutôt pousser. Et là, on est sur. Les agneaux, ils ont pas mal grandi, donc on est bien. Là, on est très, très bien.
Mais c'est vrai qu'il y a une saison dans l'agneau?
Il y a plusieurs saisons.
Ou l'agneau exagère, comme souvent.
Non, mais pourquoi on mange de l'agneau à Pâques, Philippe? C'est parce que c'est la bonne saison, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on remange de l'agneau au mois de novembre? Parce que c'est une autre bonne saison.
Exactement.
C'est la fin de l'été, l'automne, etc. Et donc, il y a vraiment des
saisons. Donc, il y a des saisons de l'agneau.
Oui, absolument.
Là, en ce moment, l'agneau, il est léger, il est pas fort, il est pas très gras, il a pas de gras de couverture. Et donc on est pas mal. Il y a des périodes où même nous on reçoit en boutique des agneaux. Alors nous on reçoit des agneaux bio et on reçoit des agneaux présalés du Mont-Saint-Michel. On fait deux types d'agneaux. C'est vraiment, ils sont extraordinaires. Des fois l'agneau est assez gras, on n'y peut rien. C'est la race comme ça, c'est des pâturages. Et il y a des périodes où il est vraiment très maigre, très fin et ça plaît vraiment à tout le monde.
Alors vous parlez de l'agneau de présalé, mais pourquoi par exemple vous orientez pas vers, alors que je sais que vous allez beaucoup en Espagne, vous orientez pas vers l'agneau de Sisteron par exemple?
Alors nous on est très proche de nos éleveurs déjà.
Ouais.
Aussi on fait très attention à la qualité d'abattage, donc du coup on doit tout doit être maîtrisé, c'est-à-dire que à la fois l'élevage, la condition d'alimentation et aussi la condition d'abattage et le transport. Donc du coup, on a trouvé un peu plus près que
l'agneau Sisteron,
ouais. Voilà. Ouais. Donc on a de l'agneau Poitou-Charentes de Poitiers, qui est vraiment doux, il est léger. C'est des agneaux qui sont élevés en plein air. En plus, ils sont pas élevés avec du colza, donc ça c'est intéressant. Il est pas fort. Et on a l'agneau présalé du Mont-Saint-Michel, hein, Voilà. En halal, on dit l'agneau du pré salé du Mont Saint-Mahmoud. Voilà.
Ouais, je précise une chose, c'est que
c'est Sidi Mahmoud, hein, pardon. Ouais,
Sidi Mahmoud.
Si on veut être complet.
Je précise une chose, Philippe, c'est que l'agneau de Sisteron, ça n'est pas une race d'agneau, hein. L'agneau de Sisteron, c'est un label.
Un label, d'accord.
C'est un label, ouais. Parce qu'il y a peu de races, mais beaucoup de labels. Donc c'est vrai que parfois les gens confondent un petit peu. Et donc, une même race, dans deux régions différentes, elle va avoir un label différent, mais elle aura un goût différent aussi, même si c'est la même race, parce qu'elle sera alimentée différemment. Le cahier des charges sera pas le même. L'agneau de, par exemple, là, bon, Slim parlait de l'agneau de présalé. L'agneau de présalé, il va brouter des algues, une herbe qui a été iodée, etc. Donc voilà, tout en fait, il y a peu de races de. Parce que bon, il y a aussi les agneaux à laine, il y a les moutons à laine, il y a les moutons à viande.
Allez, pourquoi vous parlez de moutons? C'est quoi déjà la différence, Manu, entre un agneau et un mouton?
Alors c'est l'âge. Alors c'est selon la même les pays, chose, alors. C'est vrai, ouais, que dans la communauté, souvent, on a tendance à dire mouton pour tout. Non, alors et puis si vous voulez, si vous êtes par exemple au Maroc, en Algérie. Ce qu'on appelle agneau va pas forcément être le même agneau que ce qu'on appelle agneau en France. Il y a déjà plusieurs catégories d'agneaux. Il y a trois catégories d'agneaux. Il y a l'agneau de lait, l'agneau blanc et l'agneau gris. L'agneau de lait, c'est un agneau qui n'a jamais brouté. Donc c'est un agneau qui a été uniquement élevé au lait de brebis, donc au lait de sa mère. Donc il est abattu entre 5 et 6 semaines et il fait un poids entre 6 et 8 kilos. Exemple, l'agneau halleton de l'Aveyron, donc là c'est un label, c'est pas une race, c'est de l'agneau de lait. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'agneau blanc. L'agneau blanc, lui, il est nourri donc au lait de sa mère, et puis après on prolonge. Donc lui, il n'a pas brouté non plus, et on prolonge son alimentation au lait avec du lait de vache, parce que sa mère, au bout d'un moment, elle a plus de lait. On prolonge son alimentation au lait de vache. Lui, il est abattu entre 3 et 4 mois. Et il pèse entre 14 et 18 kilos. Donc, vous voyez, déjà, on passe de 6 à 8 kilos pour le petit agneau de lait. On est 14-18 kilos. Il commence à avoir du poil aux pattes, celui-là. Hein. Et puis, on a l'agneau gris. Alors, l'agneau gris, moi, je l'appelle pas vraiment agneau. Je dis que c'est plutôt un jeune mouton. Parce qu'il est habitué à plus de 4 mois. Et il pèse plus de 20 kilos. C'est un animal qui est sevré. Donc, il broute. Il ne fait que ça. Voilà. Donc, ça, c'est l'agneau gris. Et puis après, au-delà, alors, on l'appelle pas agneau, mais on laisse sous-entendre que c'est un agneau, on appelle ça le broutard. Il a battu entre 4 mois et 12 mois, et c'est un agneau qui a connu les pâturages. Le présalé est un broutard, par exemple.
Il a à peu près 6 mois, celui-là.
Voilà. En général, ouais. Il a à peu près 6 mois, et il doit avoir au moins 3 mois de pâturage. Il a 3 mois de lait, 3 mois de l'alimentation au lait avec sa mère, et 3 mois de pâturage. Voilà. Et donc, comme il doit avoir comme il y a beaucoup de naissances au printemps et qu'il doit avoir au moins 6 mois d'alimentation, ça, le présalé, le broutard, c'est plutôt l'agneau qui sera de saison entre septembre et octobre. Voilà, donc ça c'est plutôt l'agneau, on va dire qu'il y a un agneau de printemps, un agneau de printemps et un agneau d'automne, Philippe.
D'accord.
Le mouton, il a au moins un an.
Le mouton, c'est 12 mois. Après 12 mois,
12 mois.
En général, quand ils commencent à perdre leurs dents de devant, ça veut dire que ça devient un mouton.
Voilà. Et 30 kilos environ. Ouais. Et lui, le mouton, il est castré, donc il commence à faire du gras. C'est pour ça que ça a du suif, comme on dit.
Le mouton est forcément castré.
Oui.
Ouais, sauf les moutons reproducteurs, enfin sauf les reproducteurs. Mais de toute façon, un reproducteur, au bout d'un certain âge, bon, on le transforme en mouton parce qu'il reproduit plus grand chose.
C'est, hein, du mouton de réforme.
Ouais. Alors il y a le mouton de réforme. Alors les moutons de réforme, on appelle ça des brebis ou des béliers. Là c'est l'âge d'abattage, c'est en fonction de son état de santé, hein. Il pèse moins que le mouton, hein, il pèse entre 25 et 30 kilos, parce que effectivement, il commence à se rabougrir, vous avez trouvé le bon terme, et lui, on lui donne de l'herbe, mais beaucoup d'aliments de complément aussi, pour essayer de l'engraisser un petit peu, pour qu'il garde du poids, comme ça se voit au kilo, hein. Donc, c'est une viande qui est assez grasse, qui est un peu âcre, qui est pas hyper fine.
Mais c'est quoi la différence de goût justement entre l'agneau et le mouton?
L'agneau, c'est léger, c'est doux, c'est fin. Le mouton, c'est beaucoup plus fort, c'est corsé. Là, on est vraiment dans une autre catégorie, quoi.
C'est vraiment beaucoup beaucoup plus fort, le mouton?
Ouais. Ah oui, beaucoup plus fort. Ah oui, complètement.
Pour voir la différence entre l'agneau et le mouton, sur l'agneau, vous pouvez manger le gras. Ça peut apporter un goût sympathique à la viande. Sur le exemple dans l'épaule, il y a un petit peu de gras dans de la poitrine d'agneau. Dans les côtelettes, etc. Le gras est bon. Il faut qu'il soit cuit quand même. Hein, il faut pas qu'il soit trop cru, on va dire. Et par contre, dans le mouton, le gras du mouton, c'est dégueulasse.
C'est écœurant, c'est fort.
Et ça, on appelle ça du suif ou du suin,
Le suif, c'est vraiment le déchet de gras.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Hein? Et donc,
on faisait pas des bougies avec ça avant.
Si, on faisait plein de choses. On faisait plein de choses. Ça servait à plein de trucs. Et une boule de suif.
Mais est-ce que les gens mangent le mouton encore?
C'est culturel.
Parce qu'on en mange du mouton.
C'est culturel. C'est culturel. On va prendre en Afrique noire, ils vont manger du mouton et beaucoup de chèvre.
Ouais.
D'accord. Au Maroc, ils vont manger essentiellement de la chèvre. D'accord, ils adorent ça. En France, pays d'Europe, en général, il faut que ça soit le plus fin, le plus léger possible, et c'est de l'agneau, quoi. L'agneau.
Maintenant, il y a des plats. Moi, je dis qu'un bon haricot de mouton, cuisine hyper tradie, hein. Un bon haricot de mouton avec un mouton pas trop vieux non plus, hein, pas un mouton de réforme, mais un broutard ou un mouton pas trop vieux. C'est sympa. Même un couscous, si vous faites un couscous uniquement à l'agneau, que vous dégraissez bien votre viande avec du mouton pas trop vieux, c'est sympa. Mais c'est vrai que dans les goûts, les gens recherchent un méchoui. Parce que un méchoui, ça cuit longtemps, ça doit croustiller, etc. Donc, faut qu'il y ait un peu de peau, que la peau elle soit bien ferme, bien constituée, pour que ça croustille bien. Ça, avec un agneau un peu plus vieux ou un mouton ou un jeune mouton, c'est peut-être plus sympa que de prendre un agneau. Vous faites un agneau en méchoui, c'est un peu gâché, quoi, parce que vous allez perdre de la finesse, de la tendreté, vous voyez. Donc le mouton, quand c'est du jeune mouton, ça peut être quand même sympa.
Bien. Comment est-ce qu'on choisit son agneau? Parce qu'aujourd'hui, il y en a de toutes les provenances.
Alors, l'agneau, on va choisir par rapport à sa conformation.
C'est-à-dire conformation?
Conformation, ça veut dire musculairement comment il est formé. Si il est bien charnu, on va dire qu'il y a de la viande autour de l'os.
Ah, mais là, vous le choisissez chez l'éleveur.
Ouais.
Je pense que Philippe vous demandait comment on le choisit chez son boucher.
Ouais.
Alors, on va choisir.
Parce que c'est pas toujours transparent. Hein,
Alors, il y a deux choses. Déjà, il y a la couleur. Il faut que la couleur soit très rosée. Rosé un peu clair, pas foncé, pas rouge, pas marron, pas sombre. Ensuite, il faut savoir la provenance.
Sur la couleur, c'est une viande blanche ou une viande rouge?
Alors, c'est de la viande rouge.
C'est considéré comme une viande rouge, mais les meilleurs agneaux, c'est les petits agneaux de lait qui ont une qui ressemble à du veau presque, hein, tellement ils sont clairs. Exactement. C'est pour ça, quand je vous ai listé un petit peu les différents stades de l'agneau, on a l'agneau blanc, enfin l'agneau de lait, puis l'agneau gris, etc. L'agneau blanc, l'agneau gris. Vous voyez, donc c'est.
Après, il y a les labels. Et quand on dit label, forcément, il y a des prix. En fait, tout dépend du prix que vous souhaitez mettre pour de l'agneau de qualité. Mmh. Aujourd'hui,
quels sont les différents labels qu'on trouve?
Alors, il y a l'agneau industriel qu'on trouve malheureusement partout, que ce soit en boucherie traditionnelle ou grande surface. Après, on a le label rouge, on a le bio, et après, on a les AOP, AOP, AOC. Et AOP, AOC, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà.
Parce que bio, ça veut pas dire meilleur, hein, souvent.
Pas forcément.
Ouais.
Pas forcément. Après, le bio, c'est un gage de sécurité alimentaire. Ça vous garantit que les agneaux ont été élevés en plein air. On leur a pas donné une alimentation, avec des OGM ou, voilà, de mauvaise qualité. Et, donc, du coup, au moins, ça garantit ça. Mais il y a quand même des très, très bons agneaux de qualité en bio. Mmh. Voilà.
Ouais, et des labels, il y en a beaucoup, hein. On cite les plus connus, l'agneau de l'Aveyron, le présalé, mais il y en a vraiment énormément des labels. Oui. Hein. Et comme je vous le disais, ça tourne autour vraiment de 3-4 races, hein, d'agneaux, mais qui sont élevés avec des cahiers des charges différents.
Hein. D'accord. Au goût, est-ce qu'on sent vraiment la différence de la région? Alors évidemment, celui dont vous parlez tout à l'heure, l'agneau de présalé du Mont-Saint-Michel qui broute là dans les marais salants, mais l'agneau de l'Aveyron aussi, il a une odeur et un goût prononcé.
Ah ouais, complètement. L'aileton de l'Aveyron, c'est magnifique. Il ressemble un peu à l'agneau de lait des Pyrénées. Il y a des choses qui se ressemblent. Hein. L'agneau de lait des Pyrénées, l'agneau de Pauillac, l'aileton de l'Aveyron, tout ça, ils ont leur petit goût. Leur petit goût local. Après, il y a l'agneau du Bourbonnais qui a un goût un petit peu différent. C'est lié aussi au terroir, hein, Philippe. Hein. C'est lié vraiment à l'alimentation. Donc, comme sont des agneaux qui ne broutent pas, hein, quand ils sont des agneaux de lait, ils ne broutent pas, mais ils ont quand même tété leur mère qui, elle, broute. Si vous voulez, il y a toute une logique dans le goût après. Hein.
Ouais, pour que ce soit goûteux quand même, il faut que l'agneau ait au minimum 6 mois pour moi. Trop jeune, Ça ressemble entre du veau et de l'agneau, donc du coup c'est pour des gens qui veulent manger de l'agneau, mais en même temps qui veulent pas un goût fort. Donc c'est de l'agneau de lait. Mais moi je trouve que l'agneau ça doit avoir au moins 6 mois, et il faut pas que ce soit trop gras, mais légèrement quand même. Et là on peut que se régaler. Et là on peut faire la comparaison entre un agneau bio, un agneau qui vient du Pressail du Mont Saint-Michel. C'est là où on peut comparer un produit. Dès qu'il y a du terroir, il y a d'autres arômes, il y a d'autres épices, il y a d'autres choses. Et là on va vraiment, l'agneau va révéler son goût, quoi.
Alors, dans un instant, Manu, on aura le tirage au sort du concours de la semaine dernière.
Absolument. Il y avait un livre Bocaux Minute, 75 recettes rapides et saines à préparer dans des bocaux, en un clin d'œil au micro-ondes.
Voilà, tirage au sort, hein, c'est peut-être vous qui repartirez avec ce livre. Et puis aujourd'hui, vous jouerez pour un nouveau cadeau, d'ailleurs.
Absolument, absolument, un cadeau qui nous est offert justement par la boucherie Les Jumeaux. Vous allez gagner un coffret de charcuterie halal à partir de viande issue de l'agriculture biologique. Je sais pas comment on peut le dire maintenant. Moi, je dis viande bio, c'est pas grave. On me fera le procès, tant pis.
Et vous saurez tout dans l'instant, parce que on va cuisiner, on va faire des recettes aussi.
Oh là là, oui, plein de recettes,
voilà,
aujourd'hui.
Tout est beau dans l'agneau jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Voilà Manu, c'est le début de la saison de l'agneau, et on en parle avec notre invité aujourd'hui.
Avec Slim Looney de la boucherie Les Jumeaux. Alors,
vous mettez son nom, moi ça me
choque. C'est pas grave. Slim des Jumeaux.
Voilà. Moi on m'appelle Les Jumeaux. Bon. J'ai des amis que je connais depuis 20 ans, ils connaissent même pas mon prénom.
Ouais, alors est-ce qu'on dit comment on vous appelle nous?
Non,
on vous appelle Saucisse.
Bah Saucisse et Boudin.
Boudin,
voilà. C'est moi, votre c'est frère, et Saucisse c'est vous.
C'est ça.
Voilà. Bah, donc nous avons Slim Saucisse.
C'est Saucisse.
Et puis puisque vous êtes habitué généralement à voir Karim Boudin.
Voilà. Mais il est retenu là aujourd'hui.
Il est retenu, il travaille.
Ouais. Bon, on parle de l'agneau, difficile de trouver du bon agneau, mais c'est vrai que pour les bouchers, il n'y a pas forcément de débit, Slim, dans l'agneau.
Oui, il n'y a pas beaucoup de débit, pourquoi? Alors, en général, en halal, alhamdoulilah, ça marche bien. L'agneau, il part très bien. Mais c'est vrai que c'est devenu de plus en plus compliqué parce que les clients sont devenus vraiment très sélectifs. Ils choisissent vraiment ce qu'ils veulent. Et en général, c'est que de la côtelette d'agneau. Pourquoi? Parce que côtelette d'agneau, c'est à griller à la poêle. C'est rapide, c'est vite fait. Ils ont plus le temps pour faire des gigots de 7 heures, des épaules d'agneau, des navarins, des couscous.
Ouais, mais couscous, tagine, ça, et les gens cuisinent plus?
Ouais. Non, les jeunes ne cuisinent plus. Après, avec le Covid, confinement 1, confinement 2, confinement 3, non, pas encore.
Ça vient.
Ils ont tendance à...
À partir du moment où c'est Anne Hidalgo qui le propose, on sait que ça va pas arriver. Ouais. Bon. Donc, elle nous a sauvés.
Tant mieux. En tout cas, les gens commencent à avoir plus de temps pour cuisiner, pour bien manger. Et ils choisissent bien. Donc, du coup, maintenant, on arrive à vendre pas mal d'épaules d'agneau. Ils vont faire des confits, des ribs. Des ribs, c'est quoi? C'est de la poitrine d'agneau, en fait, qu'ils vont faire soit au four, soit au barbecue. Aussi les gigots, ça marche très très bien. Ça marche vraiment très très bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut apprendre à cuisiner l'agneau. Plus vous faites des cuissons longues, des cuissons basse température, plus la viande elle sera bonne. En fait, vraiment, il faut prendre le temps. En plus, c'est pas compliqué de cuire un agneau, une épaule d'agneau. Vous la faites cuire à peu près 2-3 heures. Il y a rien à faire. Mmh. On la prépare, ça met 10 minutes, et après, on a juste à laisser dans le four, quoi.
Ah, c'est mon morceau préféré, l'épaule d'agneau.
Ah, l'épaule, c'est ce qu'il y a de
Et alors, bon. Vous parliez de la poitrine d'agneau, ouais. Philippe, est-ce que vous savez comment on appelle la poitrine d'agneau désossée qu'on fait mariner avant de la faire griller?
Moi, je sais, moi.
Ah oui, mais ça, vous êtes bouché, Slim.
Je donne ma langue au boucher.
Vous donnez, on appelle ça l'épigramme.
Un stylo Beurre FM.
L'épigramme, merci. Ça s'appelle.
Ouais.
Oui. C'est de la poitrine d'agneau, désossée, ouais. Légèrement dégraissée.
C'est quoi, c'est effiloché quand vous dites?
Ah, pas du tout, c'est vraiment la poitrine dont on a enlevé l'os, on a enlevé une partie du gras, il faut en laisser un petit peu parce que c'est ça qui donne la tendreté, parce que c'est les muscles de la poitrine sont des muscles assez secs, donc il faut quand même laisser un peu.
Aussi.
Et élastique, donc il faut laisser un tout petit peu de gras. Et vous faites griller, après vous le faites mariner dans de l'huile d'olive avec des herbes, du poivre, vous mettez plein de trucs, des aromates et tout. Et puis, vous l'égouttez un peu, vous mettez ça dans le four, vous l'oubliez sous le grill. Et ça vous fait des petits trucs croustillants, mais c'est des bonbons d'agneau, quoi.
Ah, c'est délicieux, ça. Ouais, c'est excellent.
Et ça, peu de gens le mangent.
Épigramme.
Ouais.
C'est cher comme partie, Emmanuel.
À la poitrine, c'est ce qu'il y a de moins cher dans l'agneau.
C'est ce qu'il y a de moins cher. Ouais.
Là, vous allez faire couler les jumeaux, là, sinon tout le monde va aller chercher de la poitrine, ça prévise.
Ben non, on marche bien, on pas mal des pas poitrines. D'épigrammes, mais de ribs. Voilà, de ribs avec l'os. Les gens aiment beaucoup manger avec l'os, ils mangent avec leurs doigts. Ça les fait plaisir et puis c'est pas mal.
Là, il y a le collier aussi qui est super bon et que, bon, ouais.
Le collier, c'est pour le couscous, pour moi, c'est. Il n'y a pas mieux que. Le collier d'agneau, c'est uniquement pour le couscous. J'ai pas mal de clients qui souhaitent un peu d'agneau, mais ils aiment bien mélanger. Moi, je propose toujours à mes clients, pour le couscous, de mélanger de l'agneau avec du veau.
Et le collier, deux viandes,
même trois si on veut. Mais moi, je conseille toujours le collier, c'est la base des choses. Quand on veut réussir un couscous, on met toujours du collier.
Voilà. Parce que le collier, il y a l'os central du collier qui est avec de la moelle, etc. Ça apporte beaucoup de goût.
Ça parfume et ça
apporte beaucoup de tendreté à la viande parce qu'il y a également un petit peu le gras du cou, vous voyez, qui va nourrir la viande. Et donc, ça, c'est une viande qui cumule le goût, la tendreté. Donc c'est très sympa le collier effectivement. Ouais. C'est pas facile à manger, mais bon, c'est vrai que
principal c'est le goût que ça laisse.
Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que moi par exemple quand je fais du couscous, je mélange de l'épaule avec du collier. Je mets le collier principalement pour le goût. Je le sers pas à mes invités, mais je le mets principalement pour le goût. Je leur sers des beaux morceaux d'agneau qu'on mijotait dans ce bouillon avec le collier. Puis le collier, je le garde pour moi. Alors ça, on peut le manger avec les doigts.
Alors Manu, est-ce qu'on mange tout dans l'agneau ?
Alors dans l'agneau, on mange pratiquement tout. Hein. On mange parce qu'il y a aussi, on peut parler des abats de d'agneau. Hein. Dans les abats, on a la langue, on a le riz d'agneau, on a le foie d'agneau, on a les pieds. Alors on mange plus les pieds de mouton parce que les pieds d'agneau, si c'est un vrai agneau de lait, il n'y a pas grand chose à manger dessus. Il y a surtout du nonos. On mange le rognon d'agneau.
Hein. Il y a le cœur aussi.
Ah, attendez, le rognon slim.
Alors il y a rognon blanc.
Oui.
Et il y a rognon rouge.
Voilà. Il y a les reins. Il y a les reins et les coucougnettes.
Voilà, c'est ça.
Et
il y en a deux par agneau.
Oui.
Non mais c'est important de le dire ça.
C'est comme les souris d'agneau. Personne en voulait à une époque. On pouvait acheter des souris d'agneau pas cher. Et maintenant que la souris d'agneau est à la mode, la souris, comme il y en a que deux par mouton, ça coûte très cher. D'ailleurs même certains bouchers, ce qui est pas très honnête, commencent à vendre de la pseudo souris, c'est-à-dire qu'ils vendent des pattes avant, ils vendent de la souris d'épaule qui est très bonne aussi. Hein, mais
c'est
bon,
la meilleure partie.
Ouais, moi je trouve que c'est très bon aussi. Ouais. Mais il y a quand même moins à manger. Mais c'est bon, quand il y a que deux morceaux par bête, effectivement, ça limite un peu. C'est comme comme les solilaises dans les volailles. Hein.
C'est ça. On a souvent des invités, enfin des clients qui invitent ils ont des invités, ils veulent souvent des souris d'agneau. Moi, je leur propose carrément, prenez un gigot entier. Ça sera beaucoup. Déjà, ça va vous coûter moins cher. Et en plus, c'est mieux, c'est plus joli, c'est beaucoup plus présentable.
Ah, moi, j'aime pas le gigot.
Et c'est beaucoup plus facile de présenter un gigot que des souris.
C'est sûr, c'est plus présentable.
Mais pourquoi vous n'aimez pas? Quelle est la différence?
Parce que la souris, c'est la partie basse du gigot, en fait. Donc, du coup, ça part très très bien, c'est très bon. Il y a de la gélatine, il y a un peu de gélatine, et c'est ça qui plaît, en fait. Et puis, il y a petit l'os central, un petit os, qui longe, qui est fin. C'est vraiment harmonieux, c'est joli à voir. Donc du coup, en fait, hormis l'aspect gustatif, visuellement parlant, c'est très très beau à voir une souris.
Ouais, d'ailleurs, on l'appelle souris à tort parce que la souris, en fait, c'est la viande qui a autour de l'os et non pas le morceau entier. Si on parle du morceau entier, alors c'est un terme qui est devenu très désuet, hein, mais si vous regardez dans les vieux livres de cuisine, les vieux traités de boucherie, etc., ce morceau qui comprend et la souris, c'est-à-dire la viande plus l'os, on appelle ça un canon d'agneau.
Un canon d'agneau, ouais.
Parce qu'il y a le petit os qui, comme l'os était coupé, ça fait comme un petit canon qui sort de la souris, en fait. Voilà.
Vous mangez les testicules d'agneau ?
Donc les rognons blancs.
Moi, ça m'arrive.
Ouais.
Je trouve ça très, très bon.
C'est bon ?
Ouais.
Ouais. Plus que les rognons ?
Les rognons, je trouve, j'aime pas du tout.
Moi, c'est exactement
ce que je trouve ça trop fort.
Ouais,
c'est trop fort.
Pourtant. Alors moi, les rognons blancs, le goût, ça me va, mais c'est la consistance que je déteste. C'est entre le gélatineux et le crémeux. Là, j'ai horreur de ça. C'est pour ça aussi que j'aime pas la cervelle, pas parce que c'est de la cervelle. Je peux manger de la cervelle.
Texture,
c'est la texture qui m'écœure. Alors que le goût, j'aime bien. Mais c'est vrai que en revanche les rognons, là il y a le rognon, le cœur, tout ça, ça c'est une consistance qui me va bien et qui a beaucoup de goût aussi. Mais c'est vrai que les abats d'agneau,
il y a plus de mâche, en fait, c'est pour ça.
Ouais, on y pense peu. Les riz d'agneau par exemple, quand c'est bien fait, parce que c'est très dur à cuire, hein, les riz
qu'on soit de veau, d'agneau. On connaît bien les riz de veau, donc voilà.
Bah les riz d'agneau, effectivement, comme dit Slim, hein, quand c'est une glande ou quand c'est des pieds, il y a pas d'agneau à six pieds, il y a pas de mouton à six pieds, donc forcément, le thymus, hein, parce que le riz c'est le thymus, c'est une glande, il y en a pas 50 par agneau, donc c'est vrai que comme c'est petit dans l'agneau, on n'en trouve pas partout.
Ça marche pas très bien en halal, malheureusement. Mmh. La communauté maghrébine et africaine ne connaissent pas le riz. Riz de veau, riz d'agneau, ils connaissent pas. Donc moi en boutique, j'ai quasiment jamais de demande, et quand j'en ai en boutique, j'en vends pas. Mais quand je dis j'en vends pas, je vends rien du tout. C'est pas une question de prix, parce que c'est pas non plus un produit excessivement cher, mais c'est dans notre culture, le riz d'agneau, le riz de veau, on en mange pas.
Ouais, ça marche pas, ouais.
C'est très français par contre comme produit.
Ouais, mais voilà, c'est très fin.
Bouchée à la reine, etc.
Voilà, par exemple pour les bouchées à la reine, effectivement, dedans la vraie bouchée à la reine, il y a des crêtes de coq, il y a des riz de veau, il y a du boudin blanc, voilà, avec cette sauce béchamel,
exactement,
un peu condimentée, etc. C'est délicieux les bouchées à la reine. Mmh. Voilà.
Mais ce qu'ils aiment le plus, c'est le foie d'agneau. Ah oui. Le foie d'agneau, c'est un mets vraiment très fin.
Moi, j'adore. Franchement, le foie d'agneau, si je vous le disais, j'adore.
Ma mère, elle est arrivée en France en 89 et elle est rentrée dans une boucherie halal à l'époque. Elle avait vu le foie d'agneau, il était peu cher, mais il coûtait pas cher du tout. Elle me dit, mais c'est pas possible.
C'était plutôt du foie de mouton.
Elle avait acheté beaucoup, elle a pensé que c'était un vol. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le foie d'agneau, moi, je suis d'origine tunisienne. De toute façon, peu importe, au Maghreb, hein. Le foie, c'est après l'abattage, on vend le foie tout de suite, immédiatement. Et c'est vraiment pour les familles qui veulent de la qualité ou qui avaient de l'argent, qui avaient de l'oseille, quoi. Et c'était le produit fin. Les gens adoraient ça. Et pour moi, c'est vraiment un produit exceptionnel.
Et on le trouve de moins en moins aujourd'hui.
Ouais. Ouais. Bah moi ça marche bien, les gens sont très fans, et même les jeunes, parce que c'est facile à cuisiner. En général c'est toujours en grillade, donc on fait des tranches. On peut aussi faire des brochettes, avec un peu de gras ou rognon d'agneau. Ouais.
Alors justement, vous parlez des brochettes qui sont généralement assez cuites, hein, les familles de la communauté maghrébine en France surcuisent toujours le foie d'agneau. Le cuire trop, c'est un sacrilège.
Ouais.
Essayez de le manger au moins rosé, quoi, même si vous
entre
le mangez.
Deux, quoi, voilà. À point rosé.
Voilà, parce que c'est là que vous avez le goût. C'est là que vous avez
on
le goût.
On appelle ça saignant arabe.
Ouais, c'est ça. et les gens, ouais, ce qu'on pourrait appeler à point, en fait, dans une logique plus occidentale. Mais si vous voulez, les gens pensent que quand c'est rosé, il y a encore du sang. Mais ça n'est pas du sang. Je veux dire, la viande, quand elle arrive chez votre boucher, elle est exsangue. Il n'y a plus de sang du tout dedans. Ce que vous allez enlever, c'est le jus, et le jus, c'est le goût.
Ah bon, voilà, il y en a un petit peu dans le foie.
Oui, un petit peu, bah, évidemment.
Mais sur la viande, il n'y en a pas. Il n'y a plus de sang. Il n'y a vraiment plus de sang.
Alors, il y a une partie que moi j'adore, c'est le carré d'agneau.
Ah, le carré d'agneau, ouais.
Très bien. Qu'est-ce que c'est le carré d'agneau?
Bah, en fait, c'est des côtelettes d'agneau réunies.
Ah, il y en a combien?
Il y en a 12.
Ah, vous n'êtes pas d'accord. Alors,
oui, mais pourquoi? Parce qu'on les fait, on les sert par 3 ou par 4, donc en faire 12, c'est bien. Mais.
Il y en a 13.
Non, mais Slim pourra vous dire qu'à l'école de boucherie, un carré d'agneau, il y a 13 côtes.
C'est
un
peu. En fait, c'est 12 hors taxes.
Voilà. Ah ouais, il y a un train de 13 côtes, mais la 13e côte, c'est une petite côte un peu rabougrie, qu'en général, on enlève. C'est pour la bouffe du personnel dans les restaurants.
Nous, on laisse dans la côte filée en général, donc du coup, on coupe
sur 12. Une double.
C'est ça. Et ouais, c'est vraiment très très bon.
Alors, il y a plus de côtes que ça dans un agneau, attention, hein. Mais quand on parle de carré,
on parle de quoi, voilà. C'est ça, codifié.
Un carré, c'est effectivement 13 côtes qu'on peut découper en 12 si on fait une double côte avec la première côte du carré, oui.
Et il y a les côtes filées aussi d'agneau. Côtes filées d'agneau, c'est très très bon.
La selle.
Ah bah la selle, ça c'est bon ça. Alors c'est bon, c'est effectivement le dos de l'agneau avec le début des côtes. Donc il y a, vous savez, comme sur le lapin, il y a une espèce de ce qu'on appelle une panoufle. Vous voyez, une petite peau. Donc c'est idéal quand on désosse une selle d'agneau. Vous désossez une selle d'agneau, vous faites une petite farce sympa avec du veau, pourquoi pas du foie gras, des petits champignons, des herbes, etc. Vous refermez avec la panoufle, vous ficelez ça, ou si vous avez une petite crépine d'agneau, vous mettez une crépine d'agneau autour, vous mettez ça dans le four, vous l'arrosez bien avec des petits aromates et tout, des échalotes, des oignons, que vous laissez confire là-dedans. C'est hyper simple à faire, votre boucher vous la désossera.
Ouais, c'est ça.
Magnifique.
On peut le faire. Ça, on appelle ça aussi côte filée d'agneau.
Oui.
Ouais. Donc la selle, côte filet d'agneau. Quand c'est des ossées, on appelle une noisette.
Un baron aussi, parfois, quand c'est roulé, des ossées roulées, je crois qu'on appelle ça.
Ou bien noisette d'agneau, c'est pas mal. Nous, on a eu, c'est mon frère Karim qui a eu une idée. Farfelu. Il a carrément des ossées.
Ça m'étonne.
Ouais. Il passe son temps.
Il n'y a pas besoin de rajouter farfelu. Une idée de Karim.
Ça suffit. Ouais. On a fait des beefsteaks d'agneau avec ça.
D'accord.
Juste à griller à la poêle.
Avec la partie de la selle.
Exactement.
Moi, je trouve très tendre.
C'est méconnu. Ouais, c'est injustement méconnu, la selle. Hein,
ouais, c'est vrai, mais parce que c'est les gens savent pas quoi en faire. Alors c'est vrai qu'en plus quand vous achetez la selle, les bouchers à l'ancienne, et quand ils vous vendent la selle, il y a les rognons qui sont accrochés dedans. c'est ça. Alors que bon, c'est vrai que la plupart des bouchers aujourd'hui reçoivent les trucs déjà piécés. Ils commandent pas un mouton. Bon, ça c'est pas le cas chez les jumeaux, mais les bouchers aujourd'hui ils vous commandent pas un agneau.
Le problème des côtes filées de la selle, c'est que ça sèche très vite en fait. Il faut vraiment maîtriser la cuisson, sinon c'est sec. Au barbecue, vous faites ça, c'est dur, mais dur. Pourquoi?
C'est pour ça que je conseille de le désosser et de le farcir, parce que la farce va
c'est
nourrir.
Ça. Ouais. Il faut nourrir. Non, c'est la partie du filet et du faux filet, pour situer à petit peu près en bœuf. Mmh. Ce que font les anciens, en général, elles font, en général, c'est nos mamans qui font ça, elles font des tagines avec.
Et elles le font bien,
elles le font faire longtemps, et ça reste très moelleux, c'est très tendre, c'est vraiment pas mal. Voilà.
Alors, dans un instant, tirage au sort du concours de la semaine dernière. Vous avez joué sur l'Instagram de Manuel Mariani. C'est peut-être vous qui repartirez avec ce livre que vous montrez à la caméra, Manu.
Absolument, oui, sauf qu'on n'est pas filmé aujourd'hui.
Je sais, mais bon,
donc, Beaucoup Minutes, un livre de Guillaume Marinette avec des photos très sympas de Valérie Guedes. Beaucoup Minutes, c'est 75 recettes rapides et saines à préparer un clin d'œil au micro-ondes dans des petits bocaux.
Et aujourd'hui, vous jouerez pour repartir avec un coffret de charcuterie by les jumeaux.
Coffret de découverte charcuterie des jumeaux. Avec du chorizo, du saucisson, tout ça halal et issu d'élevage bio et fabriqué avec amour par les jumeaux, évidemment.
Voilà, Dessus de Table jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Dessus de Table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de Table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
On parle d'agneau aujourd'hui jusqu'à 13h puisque c'est le début de la saison de l'agneau. Mais Maître Boily est déjà prêt pour le tirage au sort du concours de la semaine dernière, Manu.
Oui, et d'ailleurs, Maître Boily, qu'on va bientôt devoir faire passer à la tonte parce que ça a un peu poussé ces dernières semaines. Donc, on va pouvoir se faire des pulls en mérinos.
On est loin de l'Aïd.
Grâce à Maître Boily. Ouais, c'est ça. Non, mais on va pas l'égorger, on va juste le tondre. Hein. Parce que ça commence à pousser là, on le voit plus entre le casque et les frisettes, on voit plus Maître Boily.
Bon, Maître Boily, est-ce que vous pouvez lancer le tirage au sort?
Alors, nous avons un gagnant qui gagne ce livre Beaucoup Minutes 75 recettes. Alors, le profil Instagram, c'est Nicoche75004. Ah ben 75004, ça doit être peut-être un voisin à nous, Philippe. Hein.
Ah, je ne sais pas. Nicoche.
Ouais, Nicoche. Alors attendez, je regarde le profil. Le prénom, c'est Nicolas. Voilà, donc c'est Nicolas qui a gagné ça.
Ah, ça me fait peur.
Pourquoi?
Ça me fait très très peur. Alors là.
Nicolas le jardinier.
Ah, je peux vous assurer que moi, des Nicolas, j'en connais, ils sont pas jardiniers. Ils sont plutôt un petit peu, c'est des Arsène Lupin. Ils sont un petit peu, c'est des dans la bidouille informatique, vous voyez.
Exactement, ouais, exactement.
Alors Nicoche 04, vous me faites peur.
Non, non, 75004, je pense que c'est plus dans le centre de Paris. Alors donc.
Bah là, il va dans le bocal, hein.
Oui, oui. Il va dans le bocal. Au bocal, même, on dit. Voilà, donc écoutez, Nicolas, j'allais dire Nicoche, on n'est pas assez intime. Donc Nicolas, on va vous écrire pour avoir vos coordonnées et vous envoyer ce livre que vous avez gagné. Bravo à vous. Et puis on joue également, Philippe, pour cette semaine, un coffret charcuterie des jumeaux. Alors à partir de 13h30 environ, vous allez sur mon Instagram mariani.manuel, M-A-R-I-A-N-I.manuel, M-A-N-U-E-L, et vous verrez une magnifique annonce de jeu concours. Vous suivez les instructions pour vous inscrire, et la semaine prochaine, on tirera au sort le gagnant de ce coffret découverte charcuterie halal avec du chorizo et du saucisson fait maison et avec amour par nos amis les jumeaux.
Slim, justement, boucherie des jumeaux au Lila, qu'est-ce qu'on met comme morceau d'agneau dans les merguez? Qu'est-ce que vous mettez, vous?
Alors, nous, ce qu'on va faire, on va faire de la selle d'agneau, d'accord? Et un peu de poitrine d'agneau. Pourquoi? Parce que la selle d'agneau, ça va apporter du moelleux. c'est pas gras. Et la poitrine pour justement apporter du gras et pour que ce soit beaucoup plus goûteux.
D'accord. Faites voilà. 100% agneau.
100%, oui.
Manu, vous avez une recette.
Hein, on rajoute de merguez. L'ail. Oui, je peux vous donner ma petite recette de merguez maison. Alors, je mets pas exactement les mêmes morceaux que les jumeaux, mais vous allez voir, c'est une recette très facile à faire. Alors moi, je la fais 100% agneau aussi. Alors écoutez, j'ai un petit souci.
Qu'est-ce qui vous arrive? C'est votre prompteur qui fonctionne pas ou c'est votre paire de lunettes?
C'est un petit problème de réseau chez Beurre FM.
D'accord. Voilà. Ça, c'est embêtant,
retrouve,
ça.
Faut que je retrouve ma recette. Ma recette est sur le réseau.
Vous ne la connaissez pas par cœur, Manu, c'est ça?
Alors, si, je vais vous la donner comme ça, plus ou moins directement. Donc, c'est une recette avec de la... Moi, je mets de la poitrine d'agneau. Et donc, je mets également du collier d'agneau que je désosse. Et tout ça, ça permet, comme dit Slim, d'équilibrer entre le goût et le moelleux. Voilà, alors après... Pour les merguez, il faut que vous preniez du boyau d'agneau, mais du boyau d'agneau qui soit. Je vais pas réussir à aller au bout de ma recette.
Hein. Bon, c'est quoi, Manu? C'est quoi?
On va faire simple.
On peut enchaîner. On va parler de l'agneau de 7 heures et entre temps, vous allez retrouver votre recette de merguez qu'on mettra sur le site. Hein, donc voilà, rassurez-vous, vous perdez pas la recette. L'agneau de 7 heures. Alors pourquoi on appelle ça l'agneau de 7 heures?
Parce qu'on le fait cuire 7 heures.
C'est ouais. Alors d'ailleurs c'est plutôt faux. 7 heures c'est trop
presque.
7 heures c'est beaucoup trop. L'agneau de 7 heures en fait faut le cuire 5 heures.
Ouais, 5 heures c'est largement suffisant.
Moi je vois plein de recettes sur internet où tout le monde dit faut cuire 7 heures à 180 degrés. Alors si vous faites ça, l'agneau il est mort deux fois. Hein. Il faut que l'agneau qu'on appelle des 7 heures, il faut le cuire 5 heures et le laisser reposer 2 heures. C'est ça là, le vrai agneau des 7 heures. On le cuit 5 heures et on le cuit entre 120 et 150 degrés, pas plus.
180, c'est trop, donc.
C'est beaucoup trop.
Manu, c'est un classique hein, de la cuisine française.
C'est un grand classique.
Ça vient de qui, là? Qui,
alors,
là
ça existe apparemment depuis longtemps, parce que c'est une estouffade, hein, ce qu'on appelle les estouffades. C'est-à-dire qu'on cuisait dans un chaudron au-dessus du feu, au-dessus des braises, d'ailleurs. Hein, c'était une cuisson douce. On avait un gigot d'agneau auquel on ajoutait des aromates, du bouillon ou du vin, ou des herbes, etc. Et on faisait ça mijoter très doux et on luttait le couvercle. Alors lutter le couvercle, c'est faire un petit peu de pâte avec de l'eau et de la farine, comme une pâte à pain sans levure. Et on met ça tout autour. Hein. Les mamans marocaines connaissent ça hein, pour faire cuire le couscous, pour pas que la vapeur s'échappe. On met un petit, ça s'achète. Hein, vous allez chez Marjane au supermarché local, vous achetez des petits joints comme ça pour votre couscoussière, qui fait que la vapeur s'échappe pas. Ben là, c'est pareil. On met un pâton tout autour de votre chaudron ou de votre cocotte, ce qui permet au couvercle de bien adhérer. Et ça cuit comme ça à l'étouffée et ça doit cuire longtemps. Et le secret d'un bon agneau des 7 heures, que vous pouvez faire avec du gigot ou avec de l'épaule, c'est de le cuire donc 5 heures, entre 120 et 150 degrés, et de le laisser reposer 2 heures. Pourquoi? Parce que quand vous allez le cuire pendant les 5 heures, il y a beaucoup de jus qui va sortir, donc ce qui fait que vous allez avoir une sauce à côté qui va être super bonne, etc. Mais après, quand vous allez laisser reposer, il va baigner dans son jus et ça va lui redonner du goût, ça va lui redonner de la texture et puis surtout il va pas s'effilocher, c'est-à-dire que ce qu'on appelle aussi l'agneau à la cuillère. Pourquoi? Parce qu'on peut le manger à la cuillère, il n'y a pas besoin de couteau. C'est ce qui va le rendre vraiment très 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 moelleux comme ça, mais il gardera un petit peu de mâche. Voilà, ça c'est vraiment ma recommandation.
Ouais.
Cinq heures de cuisson et 2 heures sans enlever la colle autour du couvercle.
Slim, vous nous aviez donné une recette d'agneau de 7 heures, je pense, il y a quelques années, non?
Ouais. Ouais. Je crois que ça fait 5 ans ou 6 ans.
Ouais, ouais.
Il n'y avait pas le Covid à cette époque-là.
Non, c'est vrai, c'était avant.
C'était le bon vieux temps, mon cher Slim.
Vous avez un truc à rajouter par rapport à ce que vient de dire Manu sur la cuisson, justement?
Alors déjà, il y a plusieurs choses.
Ouais.
Déjà, il y a le choix de la qualité de la viande. Si vous achetez un agneau qui va venir de Nouvelle-Zélande, par exemple, il faut savoir que vous achetez, on va dire, un gigot de 3 kilos. Une fois que c'est cuit, il va faire 1 kilo. 1 kilo, 1,5 kg maximum. Donc du coup, il faut bien choisir un agneau qu'a élevé en pâturage.
Pourquoi? Il rétrécit beaucoup le.
Il réduit beaucoup. Il réduit au lavage. Ouais. Vraiment, c'est abusé. Donc du coup, nous, on prend un agneau qui va être sain le plus possible. Et là, sur 3 kilos, on va perdre peut-être, allez, 600 grammes, 700 grammes, grand maximum. D'accord. Donc moi, ce que je préconise, c'est quand le gigot est préparé, il est au frigo. Vous le sortez 2-3 heures avant du réfrigérateur et vous laissez à température ambiante. Et on va le snacker à la poêle, donc on va le faire saisir à la poêle avec un peu d'huile d'olive, à peu près 1 minute 30 de chaque côté pour bien dorer, caraméliser et surtout protéger les sucs. D'accord? Après, il y en a, ils vont le faire soit directement au four, soit ils vont le faire en cocotte et la cocotte dans le four. Et là, justement, ils vont mettre une, ils vont vraiment l'enrouler pour que vraiment il n'y a pas de chaleur qui s'échappe, en fait. Et ça, c'est pas mal. Et au four, alors, 120 degrés, c'est excellent, c'est magnifique. On peut exagérer et mettre à 80 degrés. Par contre, ce sera plus 5 heures, ce sera un gigot de 10, 12 heures. Ça existe.
Oui, d'accord.
Ouais. Voilà, j'ai un chef cuistot qui est à Monaco qui le fait.
Ouais, ce qu'on appelle basse température, cuisson basse température.
C'est vraiment incroyable. Par contre, lui, ce qu'il faisait, il le mettait sous vide. Nous, je pense que 8 heures, c'est trop, c'est abusé. Un gigot de 5 heures de cuisson, c'est excellent, ça suffit largement.
Ouais, moi, je suis contre les cuissons basse température pour les viandes parce que ça leur donne une consistance un peu flasque que je n'aime pas.
Il y a plus de mâche, en fait.
Voilà.
Toi, tu veux de la consistance, tu veux de la mâche. Forcément, voilà. Ça va pas te faire. C'est logique.
Ça détruit complètement les fibres. Bien sûr. Et on n'a plus aucune mâche.
Donc, moi, ce que je fais après les saisies au four à 120 degrés, je mets toujours un petit fond d'eau. Et là, je mets des épices. Alors, quand on met des épices, il faut bien masser. Un petit massage pour l'agneau, pour qu'il soit plus moelleux, c'est pas mal du tout.
Il vous le rendra, massez-le.
Ah, il sera très tendre. Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets toujours de la cardamome. La cardamome, c'est excellent avec l'agneau. La graine de fenouil, la graine de cumin, du poivre blanc. Et c'est des épices qui suffisent largement. Ça donne du goût et c'est incroyable. Et il ne faut pas manger tout de suite, par contre, comme tu disais tout à l'heure.
Ouais, il faut laisser reposer toujours.
Exactement. Ouais. Normalement, c'est temps de cuisson égale temps de repos, mais 2 heures, ça suffit largement. Largement.
Bien, alors Manu, on a retrouvé la recette des merguez.
Absolument, absolument. On s'est reconnecté au réseau de Beurre FM. Voilà. Non, alors c'est vrai que il y a quand même un truc qui est dégueulasse, hein. C'est les merguez industrielles qui sont gorgées d'eau, gorgées de gras. Et puis, vous avez aussi les mauvais bouchers. Donc là, on parle pas des jumeaux, bien entendu, mais les mauvais bouchers qui recyclent leur viande un petit peu limite en termes de date de consommation. Et dans les merguez avec beaucoup d'épices, ça passe très bien. Ça sent pas la viande avariée. Et ça, évidemment, vous pouvez, vous abîmer les papilles, voire même la santé, parce que c'est pas bon du tout. Alors, la solution, c'est d'acheter vos merguez, chez les jumeaux, par exemple, ou bien de les faire maison, si vous avez envie de vous amuser un petit peu. Vous pouvez même le faire avec les enfants, c'est sympa à faire. Donc pour 15-20 merguez, il vous faut 1 kilo de viande de d'agneau ou de jeunes moutons, on va dire, avec du broutard. C'est pas mal, il y a du goût. Donc ouais, si vous avez votre boucher, vous pouvez vous proposer du broutard. Faites ça avec du broutard, c'est très bien. Qui sera désossé, hein, il faut que ça fasse 1 kilo désossé, hein, c'est pas avant désossage. Et moi je mets de la poitrine et du collier, hein. Alors dans les épices, pour les dosages, vous irez sur le site Beurre FM. Catégorie news, gastronomie, vous avez plein de recettes d'agneau que je vous ai donné, comme notre fameux Bloody Burger, qui est une recette qu'on a fait exprès pour les auditeurs de Beurre FM et qui est très très bonne, qui marche très bien d'ailleurs. Alors moi comme épice, je mets paprika, je mets de la rissa, je mets des graines de fenouil mais moulues, je mets du cumin moulu, de la coriandre moulue, parce que dans les saucisses c'est sympa d'avoir un petit croquant, mais dans les merguez en général il y a pas de choses entières, hein, c'est toujours moulu. Une cuillère à soupe de persil haché, de la coriandre hachée, des gousses d'ail écrasées, du sel, du poivre blanc, de l'huile d'olive, un petit peu d'eau, parce que ça va permettre mais très peu, hein, c'est 2 cuillères à soupe pour 1 kilo, hein, donc ça va permettre de créer une émulsion qui va faire que ça va bien se tenir. Et tout ça, vous le mettez dans un petit boyau naturel de mouton. Et surtout, quand vous avez un boyau naturel de mouton et que vous avez de la viande de qualité à l'intérieur, vous ne piquez jamais la merguez. De toute façon, c'est à ça qu'on reconnaît une merguez de qualité.
Ah oui. Ça les fait pas éclater?
Ah mais pas du tout.
Non.
Celle qui éclate, c'est les boyaux
Michelin.
Les boyaux en plastique, on va dire, les boyaux synthétiques. Pourquoi?
Parce qu'on ne pique pas les merguez.
Jamais. Les boyaux synthétiques, ils sont parfaitement imperméables. Donc évidemment, vous allez avoir de la vapeur. Comme c'est en plus plein de flotte, parce qu'ils rajoutent plein de flotte pour faire du poids et du gras, etc. Donc ça va bouillir à l'intérieur, ça va faire du volume et ça va éclater.
Alors on dit que finalement le gras, ça a quand même un petit peu une utilité. S'il y a pas de gras, c'est sec.
Oui, c'est pour ça qu'on met de la poitrine d'ailleurs. Enfin moi je mets la poitrine
dans
les merguez, c'est pour faire pour avoir un petit peu de gras, un petit peu de moelleux.
C'est bon, Manu, avec vos merguez, là?
Ben voilà, sinon, beurrefm.net, rubrique news, rubrique gastronomie, vous trouverez la recette et puis d'autres recettes comme le Bloody Burger à l'agneau, les merguez maison, ça on vient de vous le dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa? Un gratin de gnocchi aux boulettes d'agneau avec une sauce à la tomate et à la mozzarella. Voilà, qu'est-ce que je vous ai préparé d'autre? Ah oui, ça c'est très bien aussi. Des mini brochettes d'agneau avec un caviar d'aubergine minute et une sauce yaourt.
Parfait. Et je rappelle que cette semaine, vous jouez et vous participez à un concours pour remporter un coffret dégustation de charcuterie Baille les Jumeaux. Donc là, tout à l'heure, le concours est en ligne sur l'Instagram.
Il sera en ligne à 13h30 exactement, hein, sur mon Instagram, mariani.manuel. Et puis, vous vous laissez guider pour jouer et pour gagner. Donc, ce coffret découverte charcuterie halal, les Jumeaux, avec du saucisson et du chorizo fait maison avec amour.
Voilà, boucherie les Jumeaux au Lila. Donc, Slim, merci. Vous allez retrouver l'affreux Karim.
Voilà,
à la boucherie, là.
97 exactement. Rue de Paris.
Couvre-feu, hein?
Couvre-feu. 18h.
Puis 18h, c'est fini.
Allez-y avant 18h.
Ouais. Ouais. Ah, ils en peuvent plus, les gens. Ils en peuvent plus. J'ai hâte que ça se finisse, tout ça.
Ouais, attendez, encore aller un petit mois, puis après, ça va repartir.
Ben merci, oui, on espère.
Ouais, merci Slim d'avoir été avec
nous. C'était un plaisir en tout cas, merci.
Voilà,
beaucoup.
Welcome back, Manuel Mariani. On vous retrouve la semaine prochaine. Vous réécoutez l'émission en podcast et passez un très bon week-end sur Beurre FM.
À bientôt.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.